Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Roger, toujours là.
On sent que c'est le premier jour où il fait beau, je vous sens éteint.
Ah oui, bah c'est vrai qu'on est passé un peu sans transition, donc quand on a traversé effectivement la place devant, il faisait très chaud. Et j'ai senti en arrivant à l'ombre qu'il y avait vraiment une différence de température.
Et
c'est vrai que ça m'assomme un peu.
Bah c'est vrai qu'on n'a pas eu
C'est bientôt les vacances, c'est bientôt les vacances aussi.
Oui, et puis comme on n'a pas vu le soleil du tout depuis le mois de septembre l'année dernière, bah ça surprend.
Effectivement. Donc 484e émission de bande dessinée, de la news, des chroniques et de la musique, pour faire simple.
Yes.
Ça vous va? On commence direct avec programmation à Roger. Oh, une vieillerie.
Explose électrique, mutant métallique.
Pur moment de poésie.
Voilà, tout à fait. J'ai fouillé dans mes archives musicales ce que j'écoutais quand c'était... À l'époque, on craignait déjà le fascisme, mais c'était juste Chirac, Pasqua, Pandreau. Alors, vous voyez, on en est arrivé maintenant.
Ouais, incroyable. Métal urbain, pour ceux qui ne connaissaient pas. Le morceau s'appelle Panique.
Panique, anarchie.
Ouais. Ça me fait penser à une petite news. Alors, un tout petit doigt dans la bande dessinée quand même, mais en tout cas, au niveau du graphique, une expo assez intéressante. Aérosol, une histoire du graffiti aux Beaux-Arts de Rennes. C'est là jusqu'au 22 septembre, donc il y a un peu de temps, mais j'y étais et c'est pas mal.
Ouais.
Tu découvres notamment que donc, c'est plus un truc sur l'aérosol et le graffiti. Hein, faut pas s'attendre à des beaux street art à la Houbet et tout ça. Hein, on est vraiment dans les années 70-80. Ça commence à partir de mai 68, les premiers graffitis sur les murs, enfin, etc., politiques. Et puis, ça se développe. Et dans les années, jonction des 70-80, il y a tout un passage intéressant autour du punk rock, avec des groupes qui ne démériteraient pas de métal urbain, Oberkampf, Marquis de Sade, Trotsky et tout ça, qui pratiquaient le graffiti bien avant le hip-hop, en fait, finalement. Ils écrivaient déjà des tas de choses sur les murs. Et il y a un moment, on voit un grand dessin de Jeannot, on voit son quai bras en gros, et Jeannot en train de le dessiner. Il y a aussi
C'est un dessin original de
Jeannot.
Superbe.
Enfin, c'est assez chouette, quoi. Donc, allez voir, c'est une bonne expo.
Je suis sûr qu'on va retrouver au moins cette image-là sur notre blog, parce que je crois que vous l'avez mis en photo, ce serait joli.
Ah oui, écoutez, je vais essayer de retrouver ça, effectivement.
Et.
Donc, un petit Trambert et Jeannot, pour ceux
voilà.
qui...
Voilà, et puisqu'on est dans la contestation, il y a une liste de 500 pétitions d'auteurs d'auteurs, de dessinateurs, réalisateurs.
500 pétitionnaires.
500 pétitionnaires du monde de la BD, de l'édition.
Pour faire barrage au Rassemblement national.
Pour faire barrage au Rassemblement national. Alors, c'est vrai qu'on se doute qu'à part Monsieur Meursault, ou Marceau, c'est Marceau.
Marceau.
Il est quand même, et le défunt, Dimitri. Les auteurs de BD proches des idées du Front National, Dieu merci, ne sont pas pléthores. Mais c'est toujours bien de voir les gens s'engager, rappeler que le Front National, c'est quand même ce qui pourrait nous arriver de pire. Et alors que le Front National n'est même pas là, j'ai lu un article assez surprenant d'un journaliste de France Inter qui anime une émission BD, quoi de plus louable. Et dans le cadre de cette émission de BD, il fait des critiques, etc. Et il passe en revue les biographies, en fait. Il dit que la mode est à la biographie, est au biopic, hein, dit-il plus précisément. Ouais. Mais si le contenu de l'article est intéressant, dans la mesure où il va parler justement d'une biographie parue aux éditions Oxymore. Alors, je crois que vous avez l'article sous les yeux, parce que comme un con, je l'ai oublié à la maison.
Oui, il parle du Laurel et Hardy, notamment de Giualunca Butotto, éditions Oxymore, qui était, d'après lui, magnifique.
Voilà.
Donc il dit qu'il y a des trucs super, mais alors c'est sa conclusion en fait.
La chute qui est un peu surprenante. Il dit, mais bien sûr, il y a aussi, c'est comme pareil, dans tous les sacs de blé, il y a du bon grain et de l'ivraie. Et de l'ivraie, Et il se met à régler son compte à des biographies qui sont loin de l'avoir passionné, parce que soit elle lui tombait des mains, soit elle ressemblait plus à des hagiographies, c'est-à-dire une espèce de machin post-mortem à la Bossuet, plutôt qu'une véritable biographie critique.
Notamment une sur Giscard, apparemment, qui a retenu son attention.
Ouais, alors jusque-là, il a le droit. Jusque-là, moi, ça ne me choque pas. Mais c'est quand il vient à parler d'un moratoire. Il faudrait qu'il y ait un moratoire.
C'est bien, le moratoire, c'est bien. C'est pas une censure, mais...
Mais ça... Voilà. Alors, je serais curieux de savoir comment il le dit pas.
Sur quel critère
il faudra que ça lui plaise. Alors, il vaut mieux que ça soit lui qui écrive ce moratoire, parce que je ne vois pas, moi, si les BD lui plaisent pas, il fait comme chez Plume et Pinceau, il n'en parle pas.
Oui.
Sachant que la production de BD étant pléthorique, que le temps lui-même qui lui est imparti est assez court, et qu'il sait parfaitement bien mettre en avant les bandes dessinées qui lui ont plu, pourquoi, mon Dieu, grand Dieu, réclamer un moratoire pour que les éditeurs, lorsque Erwan et moi viendrons parler d'une biographie de, je sais pas moi, de Justin Lepic, eh bien, non, vous n'êtes pas dans le cadre du moratoire, il n'y aura pas de biographie de Justin Lepic. Eh bien, ça sera bien dommage quand même. Moratoire, ta mère, quoi.
Les temps sont particuliers.
Les temps sont particuliers. On va bien voir. Il y a aussi une BD, mais justement, en réaction de ça, Bastien Vives qui sort une BD bientôt où il
inspiré
va raconter...
de son moratoire sur lui.
Voilà. Alors, est-ce que lui rentre dans le cadre du moratoire de notre collègue de France Inter? Je ne sais pas.
Oui, ça va faire du buzz et du jazz.
Oui, mais en tout cas, je trouve l'expression maladroite et l'idée bien merdeuse qui danse. Et j'en suis bien désolé.
Peut-être voulait-il faire de l'humour.
Ouais, peut-être. Mais je vois le mal partout. Hein.
Interlude musical.
Yes.
Allez, restons sur les automotivations. Moi aussi, j'ai sorti des vieux trucs. I'm not attracted today. I'm not a sight for sore eyes. I'm not an Adam or Eve. I'm just a nervous young thing. Hear my voice strain as I sing. My will bend and then break. The cradle break and I fall. I couldn't help it at all. I've got a license to confuse. What have you got to lose? plus électrique qu'une centrale EDF. Sebado, License to Confuse. Alors, vous voulez commencer ?
Non,
allez, moi j'y vais. Ça sent l'été. Ça sent l'été parce que du coup, vous savez, quand arrive l'été, il y a toujours les maisons d'édition se disent un truc pour continuer à vendre pendant les vacances. On va faire des poches. On va ressortir plein d'albums qui ont bien marché, souvent des romans graphiques d'ailleurs. Et on va les sortir en petit one shot, en poche, façon taille grand manga, quoi, plus petit que d'habitude. Et on les vend moins cher, et comme ça, les gens, ils peuvent aller à la plage avec. Et Glénat vient de faire ça. Et ça m'a permis de découvrir un album que je ne connaissais pas, et que j'ai trouvé vachement sympa. C'est Lettres perdues de Jim Bishop, qui sort donc dans la collection poche de Glénat. Alors, ça, autre titre que vous pourrez trouver dans cette même collection, Wessantine de Nicobi, avec Nicobi. Ces jours qui disparaissent, tu sais, avec le beau Timothée. Mmh. Timothée Boucher. On trouvera aussi un Pascal Rabaté, Les Pieds Devant. L'été fantôme de. J'ai oublié le nom de l'autrice, mais on l'avait rencontrée. Elle était plutôt sympathique. Jo la Pirate, avec. Hubert et Virginie Augustin. Donc des titres plutôt sympas. Alors Lettres perdues, c'est celui que je ne connaissais pas. Donc c'est celui que j'ai pris.
Et c'est de qui ça du coup?
Alors
ça
Jim Bishop. On croirait un nom américain, mais en fait c'est un Français. Et il nous propose vraiment une très jolie histoire. Alors vraiment très Miyazaki en fait. Vraiment très Miyazaki. En fait, on va pénétrer dans un univers. On va prendre le temps de découvrir un univers où on va voir un petit personnage, un adolescent qui s'appelle Iod. Qui a avec lui un pélican, il parle avec un pélican, et il vit sur une espèce de petite île, et dans l'île, un peu, sa maison est là, il y a une île un peu plus grande, il vit donc sur cette île, et où se côtoient, en fait, les humains et les poissons. En fait, il y a un savant qui a permis finalement le rapprochement entre les deux espèces. Et maintenant, tu vas croiser forcément des poissons qui te parlent, qui tiennent des postes à la poste. Le facteur
sous l'eau. Toujours.
Ouais, le facteur. Non. Ils échangent, ils se promènent à l'air libre parce qu'en fait, tu vas les voir quand ils sont à l'air libre. Il y a un des personnages qui est hyper rigolo. Il s'appelle Sissi. C'est un agent de police. Et en fait, tu vois, son corps, c'est vraiment un robot avec le costume de policier à l'ancienne, tu sais. Et la tête, c'est un bocal.
Ah oui,
et puis lui, il est dedans, tu vois. Il est dedans. Et ils peuvent être facteurs. C'est des poissons clowns qui lèvent les lettres. Et en fait, tout tourne autour d'une lettre. Notre Iod, là. Donc, il est dans cet univers-là où se côtoient, je te dis, les animaux marins et l'humanité. Et il attend une lettre de sa mère qui est partie. Alors, on apprendra pourquoi elle est partie, qu'est-ce qu'elle est partie faire. Elle est partie et elle lui a promis de lui envoyer un courrier pour lui donner l'adresse ou son point de chute, qu'il la rejoigne, quoi. Et lui, il attend cette lettre. Et puis, le poisson clown facteur, à chaque fois, lui fait croire qu'il lui amène la lettre, mais il lui donne. Mais en fait, il ne l'a pas. Et le petit gars, il commence à s'inquiéter. Sa mère lui manque. Donc, il va monter à la ville. Alors, il va aller dans une petite voiture, un peu vert pomme, ça fait très un peu oui-oui, quoi. Hop, et il va, sur son chemin, prendre une autostoppeuse, une mystérieuse jeune fille qui, sous des dehors de jolies petites rouquines, a du tempérament, qui se fait appeler Frangine, qui doit livrer une valise pour une organisation qui s'appelle La Pieuvre. Tatatatin. Et normalement, elle doit le livrer à pied, mais elle a un peu la flemme. Faut dire qu'elle est, je te dis, très ronchon comme gamine. Elle, ça va être l'élément bourru, tu vois, de l'équipe. Il y a le naïf Iod, le petit gars, et il va y avoir lui. Elle, donc il se rajoute. Elle monte en stop, et puis elle lui faut se compagner au dernier moment. Mais l'autre, il s'inquiète, lui. Tu sais, il est gentil, il est un peu oui-oui, quoi. Et donc, il est gentil, donc il va voir le policier. Et comme elle transporte une mallette, où tu te doutes bien qu'il y a des trucs illégaux, l'histoire est lancée, quoi. Et donc, tout va tourner autour de qui est cette Frangine, Iod, sa lettre, l'absence de sa mère. Tout va tourner autour de ça. Et t'es dans un univers vraiment très Miyazaki. L'île, les bateaux, les animaux qui côtoient les humains. Et puis, il y a beaucoup... c'est un ton enfantin et parfois un petit peu absurde, mais dans le bon terme, tu sais. C'est très poétique. Moi, vraiment, j'ai pensé à Miyazaki, à ces genres de décors, tu sais, comme tu peux voir dans Porco Rosso, des bords de mer, comme ça.
Et c'est dessiné façon manga.
Non, pas du tout. C'est très bien dessiné, c'est vraiment très élégant, très fin, et c'est très beau au niveau des couleurs aussi.
C'est parce que vous parliez de Miyazaki, tout ça.
Ouais, mais parce que les personnages ont, oui, un tout petit peu peut-être, un tout petit peu, et c'est surtout dans t'as des hydravions, etc. Mmh. Tu sens bien qu'il y a une grosse référence. Je crois que c'est un des premiers albums que faisait Jim Bishop, donc il est peut-être encore un peu respectueux des anciens, il a pas trouvé peut-être encore de traces personnelles. Mais c'est vraiment une très chouette histoire, quoi. Que j'ai beaucoup aimé. La fin peut être surprenante et déroutante, faut reconnaître. Mais pour 10 balles, pour emmener sur la plage, je trouve ça très très bien. Et autrement, je vous dis, il y a d'autres albums qui sont très chouettes. L'été fantôme, Ces jours qui disparaissent, Joe la pirate, Wessantine. Il y a même un Moby Dick. C'est vraiment une bonne proposition de collection. Jim Bishop, moi je vous conseille Lettres perdues, Poche, chez donc Glénat. Et voilà, c'est du 15 sur 20, le bouquin,
ça couverture souple, etc. Dans le sac de plage.
Exactement.
Et ça supporte le sable à l'intérieur. La couverture est doublée, mais on peut regretter qu'elle ne soit pas un petit peu vernite pour éviter les taches.
Vous aussi, vous créez de la polémique. Vous voyez, c'est dans l'air du temps.
Non, mais je dis c'est bien, mais une petite pellicule de vernis quand même.
Non, parce que moi, je vois, je suis dans la reliure.
Eh ben, l'été, comment, y a pas que la plage, y a aussi le cul.
Oui.
Et je me suis dit, ambiance sex and son, que j'allais ce soir ne vous parler que de bandes dessinées faisant référence au sexe, plus ou moins directement, plus ou
moins. Ah, vous avez créé une thématique.
Ouais, de manière plus ou moins humoristique. Et nous débuterons cette série par l'introduction au sexe, l'encyclopédie des déviances sexuelles. La Rudbeck Apat que nous devons à Monsieur Pixel Vengeur. Oula. Et c'est paru aux éditions Roukmout. Alors il faut savoir que cette bande dessinée là, alors l'album est récent, hein, mais cette bande dessinée paraissait dans le Psychopathe entre la fin 2008 et début 2011. Et comme c'était très très compliqué pour l'équipe du Psycho de publier des albums à partir des séries qui existaient.
Comme très fluide quoi.
Ouais, y en avait peu. Et c'est des auteurs qui se débrouillent un petit peu à droite à gauche pour et là Monsieur Pixel ou Monsieur Vengeur ou Pixel Vengeur comme vous voulez,
appelons-le Pixel tout simplement,
appelons-le Pixel, nous dit dans sa proctologue amusant, il nous raconte un petit peu la genèse de cette histoire là qui est un hommage à la Rudbeck Apat, qui est un hommage à la rubrique Abrac du génialissime Marcel Gottlieb. Monsieur Pixel Vengeur constitue, vous rappelez quand on avait fait un super plateau Flux Glacial, on avait eu comme ça plusieurs générations oui. D'auteurs fluides, premier plateau, Messieurs Soleil, comment dirais-je, etc.
Oui, la Old Guard.
Et je ne sais plus dans quel plateau se retrouvait Monsieur Pixel Vengeur. Et nous l'avions aussi, quel plateau mon ami, quel plateau, j'en ai encore les yeux humides du plateau. Et Monsieur Pixel Vengeur était venu et il fait partie de ces auteurs qui ont eu à la veine humoristique, qui ont rejoint Flux Glacial, mais qui comme d'autres aussi, comme OCDM par exemple, eh bien produisaient également tous les mois des histoires dans le génialissime Psychopathe que j'achetais aussi régulièrement.
Il avait déjà un personnage qui ressemblait à un dingo ou à un chien Pixel.
Oui, Monsieur Pixel Vengeur, il a commencé un petit pécari.
Un pécari, ouais.
Un petit pécari à
il
qui...
Il aime bien les messieurs.
Ouais, puis il lui arrive toujours, il est tout mignon, mais il lui arrive toujours plein de saloperies. Donc dans cette série de cet hommage hyper sexualisé à la rubrique Abrac, eh bien, nous retrouvons Ramon Leport et Mademoiselle Paulette. Un humble parangon, nous dit l'auteur, du présentateur débonnaire anonyme de la publicité dans la joie et de sa charmante partenaire Miss Laetitia, commis par messieurs Alexis et Gottlieb. Et donc du coup, on a notre cochon, on a une espèce de cochon très standing,
hein, en peignoir.
Ouais, métaphore un petit peu de ce que sont les hommes hein, en matière sexuelle. Alors il est pas toujours avec son peignoir. Le plus généralement, il est dans son espèce de vieux peignoir façon J.F. Comment il s'appelait là, Strauss-Kahn, vous voyez.
Ouais.
Mais parfois, il peut mettre un petit costume de nazi. Ça dépend sur quelle
humeur du moment.
Ça dépend de l'humeur du moment et des choses dont il doit parler. Alors je dis non, c'est pas nazi, excusez-moi, c'est comment dirais-je, c'est presque ça, c'est l'empire dans la guerre
Star Wars.
Voilà, Star Wars. Ah mais si, il a un costume militaire. Voilà, mais c'était un explorateur. Bref, à chaque fois dans des petites historiettes, on va dire, 2, 3, 4 pages, et ben Ramon et comment je vous ai dit tout à l'heure, et Ramon et Mademoiselle Paulette.
Ouais.
nous nous éclaire sur des problèmes liés à la sexualité, notamment les déviances. On a la nécrophilie, la pédophilie, scatologie et l'urologie. On a les fétichistes du pied, etc., etc. C'est excellent parce que naturellement, à travers l'humour de Monsieur Pixel Vengeur, nous ne sommes pas là dans la bande dessinée strictement pornographique ayant pour vocation à vous exciter ou à réveiller une libido défaillante, quoique quand même, dans sa grande modestie et dans son proctologue, Monsieur Pixel Vengeur dit oui, Mlle Paulette, machin et tout, elle est sacrément gironde, sa Paulette. Elle a des poumons de 12, elle est magnifiquement...
Rossmeyer ou quoi?
Non, pas Rossmeyer, parce qu'elle a des cheveux longs un peu à l'ancienne.
Ah, d'accord.
Vous voyez, un peu à la Pichard, je dirais, quelque part. Et toujours un espèce de petit justaucorps body avec une petite queue de lapin parfois sur les fesses.
Une bunny?
Ouais, elle est façon bunny ou façon punkette avec une petite robe. Bref. Et lorsqu'il veut effectivement parler des amoureux des gros poumons, la mère Paulette aborde, une poitrine plus que généreuse. L'introduction au sexe, la rugby capate, l'encyclopédie des déviances sexuelles, parue aux éditions Roukmout. C'est avec ça, je n'ai pas de nouveau un briquet. Je veux bien passer par l'entremise de monsieur
Bernstein.
Bernstein, quoi, s'il nous entend. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Couverture rose. N'hésitez pas à le demander. Vous dites bien au marchand. Vous dites, ce n'est pas du cul, c'est on rigole sur le cul. Pour après, on va aborder des choses peut-être un peu plus.
C'est vrai que quand tu regardes en plus la couve, tu vois la référence à Gottlieb, tu sais, l'oreille comme ça,
ouais,
qui est étendue, comme Gottlieb pouvait faire le corps humain hyper
souple.
Voilà.
Et il y a ça parce que Paulette.
C'est un tome 1 ou c'est un one shot?
Ça, c'est un one shot puisque
il n'a pas continué ça.
Mais non, puisque ça a disparu, malheureusement.
Bertrand disait que ça daterait peut-être un peu, non?
Oui, mais Bertrand a une troisième planète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Interlude musical.
Yes.
Violenzo, Jésus m'a piqué ma compie, non?
Every day, every afternoon, tried so hard, but lost to God. Smiling.
c'était grungy. Velonso, Jesus Stole My Girlfriend. Excellent morceau, bravo Roger. Très bon choix. Ça réveille. Alors, vous allez croire que je me fous de votre gueule.
Non.
Mais je vous assure, c'est bien le nom de l'auteur que je voudrais vous présenter. Cheng Chang.
Cheng Chang.
Je vous jure, ce n'est pas une blague.
Bien.
C'est un auteur de Taïwan que je viens de découvrir avec le premier épisode d'une trilogie. Ça s'appelle Yan, c'est paru chez Glénat, dans leur collection de mangas. Là encore, un manga, on n'a pas le petit format, mais le grand format. Et c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment... c'est un grand blockbuster film d'action. C'est vraiment très bien. Alors, notre héroïne, c'est donc, vous vous en doutez, elle donne son nom à la série, Yan. Quand elle a 15 ans, cette jeune fille, elle travaille dans la prestigieuse troupe de l'Opéra de Pékin, tu vois. Donc, elle a appris, tu sais, ces espèces de légendes, contes chinois, comme ça, où ils sont super déguisés, maquillés, etc., qui renvoient à toute la mythologie, confucianisme, etc., Bouddha, 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 tout ça, le dieu singe, tralala, tralala. Donc, elle est élevée là-dedans par une mère qui est très rigoureuse, qui lui apprend aussi les arts martiaux, le kung-fu, etc. T'es vraiment dans ces espèces d'esprit chinois, spiritualité chinoise, et toute sa famille est assassinée, lorsqu'elle a 15 ans. Et c'est elle qui se retrouve accusée du meurtre. Et donc, elle est envoyée dans une espèce de prison de redressement. Et puis, quand l'histoire commence, on va redécouvrir cette jeune fille qui a grandi. 30 ans se sont passés depuis qu'il y a eu une espèce d'accident assez mystérieux. Presque, on pourrait dire, un accident industriel dans la prison dont elle faisait partie. On suppose qu'il y avait effectivement des laboratoires ou quelque chose comme ça. Bref. Elle est censée être morte il y a 30 ans et elle est là. Elle revient et on est part sur une histoire de vengeance, puisqu'elle veut découvrir qui a assassiné sa famille. Et puis tu sens bien qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé quand elle était dans cette espèce de camp de redressement, de prison labo, etc. Et donc l'histoire va commencer, elle a enlevé le fils d'un député. Elle est avec son maquillage, comme elle faisait quand elle répétait à 15 ans, l'espèce de rôle d'inspiratrice qu'elle tenait. Et elle dit clairement qui elle est, et puis, apparemment, elle tue le fils du député. Donc, à partir de là, se lance une grande course-poursuite, et on va la suivre, elle, dans sa vengeance, et y a un flic qui va intervenir, qui va être un personnage secondaire, qui, évidemment, lui, il y a 30 ans, avait un doute, quand même, sur la culpabilité de cette jeune fille de 15 ans, était dans un univers très moderne, avec, tu sais, des milices, des grandes corporations, etc. Tu sens que ça va être une histoire très touffue. C'est mené à 100 à l'heure. Quand ça bastonne, ça bastonne parce que la petite nana, là, la Yan, en genre kung-fu, elle est pas mal. C'est un côté très Kill Bill, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est assez régressif, mais assez jouissif. Et puis graphiquement, c'est vraiment très, très impressionnant. Y a un design des personnages, les scènes d'action. Il y a du sang qui gicle par moment. Je reconnais mon bon Roger, ça tâche, quoi. Ça tâche.
Alors c'est marrant parce que la couverture est rose. On pourrait s'attendre à une œuvre, comment dirais-je ?
Parce qu'en fait, il y a ce côté aussi, je te dis, toute la référence à ce théâtre chinois, elle-même, tu vois, son costume et tout ça, elle est costumée comme elle est là sur la couverture, tu sais, avec cette espèce de grande de chapeau chevelure avec plein de fleurs, etc. Elle est très maquillée, enfin, il y a plein d'allusions à ça. Elle va rencontrer une autre personnage qui, elle aussi, porte un masque du dieu singe. Enfin, tu vois, ça joue, c'est un grand théâtre aussi. Et mêlé donc avec un thriller, un polar, un peu de science-fiction. C'est prévu en 3 tomes. Et moi, je trouve que j'ai été captivé du début à la fin.
C'est marrant parce que vous avez dit que ça s'appelait Yan, Y-A-2-Z.
Y-A-N.
A-N, ah ok.
Ouais. Et donc l'auteur, c'est Cheng Chang. Alors si j'ai bien compris, Chang, c'est le nom de famille. C'est donc un bon seinen, je crois qu'on dit ça, pour la BD pour garçons, venant de Taïwan. C'est paru chez Glénat. Le premier épisode est sorti, et le deuxième, avec une très belle couverture aussi, est annoncé pour le mois d'août. Donc ça va très vite s'enchaîner. Je vous conseille véritablement ceci.
Très bien, très bien. Revenons dans quelque chose de plus léger, léger, mais restons en Asie.
Dites que j'ai plombé l'ambiance.
Oui, oui. Alors, vous savez, je vais un peu la plomber aussi, oui et non, avec restons en Asie, mais cette fois-ci plus à l'ouest de la région dont vous nous avez parlé tout à l'heure, puisqu'on va se retrouver en Inde avec Kama Sutra de chair et de sang. Paru aux éditions de Daniel Wagen.
Et ça va plomber l'ambiance.
Alors voilà, vous imaginez tout de suite, Kama Sutra.
Alors, oui. Faut être souple.
Alors voilà, il y a de la bricole, il y a quelques scènes assez explicites, quoique nous ne versons pas, encore une fois, je dirais, dans la pornographie la plus explicite, puisque, pour être précis, on ne voit pas vraiment directement les sexes, à part les poitrines.
C'est pas trop gynécologique.
Voilà. Tout à fait. En fait, Kama Sutra, de chair et de sang, raconte l'histoire, la véritable histoire du créateur du Kama Sutra au 3e siècle de notre ère en Inde. Il s'agit donc là d'une...
Ça serait pas un biopic.
Alors, voilà, si c'est un biopic, c'est mort, ça passera pas dans le moratoire, c'est clair. Mais, en attendant, on découvre l'auteur du Kama Sutra. Alors, c'est marrant parce que c'est un vieux bonhomme, tout chauve, avec une grande barbe blanche.
Mais il est connu, donc, le gars. Moi, je pensais que c'était un truc mythique. Légendaire, auteur inconnu.
Il aurait en tout cas vraiment existé au 3e siècle de notre ère. Et ne voilà-t-il pas que, alors qu'il se promenait, il était en déplacement dans la jungle, accompagné de.
Quel scénar!
Il était accompagné de, comment dirais-je, il était accompagné de troupes du roi local pour aller d'un endroit à un autre. Et voilà qu'il tombe sur des vilains. Et là, on bascule en plein temple de l'Arche Maudite, là. Vous savez, Indiana Jones, mon préféré, quant à moi.
Ouais.
Et on voit des affreux qui débarquent avec des espèces de peintures blanches à tête de mort, des vilaines sales gueules, et menées par une femme. Et elle va couper la tête à tout le monde. Puf, 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 sauf du vieux. Je ne sais plus trop pourquoi. Si, voilà. Le vieux, parce que le vieux, il a des espèces de parchemins un peu bizarres. Et alors elle va le ramener. Elle va le ramener. Elle va le ramener à la base, parce que elle, ce n'est que la générale. En fait, c'est une base qui est tenue par une reine. En fait, on l'appelle la reine rouge. Et elle habite au cœur d'une forêt. Et elle a pris la succession d'un bandit local dans une période de l'Inde. Donc, on est au 3e siècle de notre ère, un peu tourmenté, où les rois locaux se livrent une guerre sans merci pour se partager des morceaux de jungle pourris, remplis de bestioles qui piquent. au milieu de tout ça, on a cela. Regardez les têtes d'affreux, au secours, au secours, au secours. Tous les affreux en blanc menés par la reine rouge. Et parmi également les survivants de ce convoi anéanti par les sbires de la Reine Rouge, figure un homme, un beau gars, on va pas se mentir, c'est un bioga. Et ce bioga va devenir l'ami de ce papy. Là, il va sauver la vie de. Ils deviennent tous les deux esclaves. Hein, ils sont esclaves pour la Reine Rouge. Ils bossent. Et puis un jour, le jeune homme va sauver la vie du papy. Ils vont discuter, et pour sauver la vie du papy, en fait, il a cassé la gueule à l'esclave le plus balèze. Quoi. Ce qui a été repéré par des sbires de la Reine Rouge, parce que la Reine Rouge a, lorsqu'elle est, on va essayer de résumer de manière assez métaphorique, lorsqu'elle est chaude comme une baraque à frites.
Ouais, je me demandais quand est-ce qu'allait arriver les miches là-bas.
Voilà, voilà. Eh bien, elle prend un de ses esclaves et charge à lui je l'ai comblé, sinon, le lendemain matin, sa tête est sur une pique à l'entrée de la chambre de la Reine Rouge, et c'est ce qui arrive d'ailleurs à tous les esclaves qui passent dans sa couche. Sauf que là, le vieux, pour remercier le jeune homme, effectivement, il l'a pris en amitié, il va lui confier les secrets qu'il a écrits à travers le Kama Sutra.
Ah !
Respiration, yoga, travail sur le périnée, pignole sur des bas-reliefs de singes en se retenant. Enfin bref, je ne vous passe les détails, mais il devient...
Je vois, ouais. Vous voyez, c'est marrant.
Ah,
C'est pas l'histoire originale du Kama Sutra, non, le vrai Kama Sutra, alors, non.
Pardon, non, je pense que, je ne sais pas à quel point, c'est vrai, je dois avouer, j'ai pas fait de recherche plus en amont, mais je ne sais pas dans quel point, effectivement.
Moi non plus. J'ai lu Gwendoline, mais j'ai pas lu le Kama Sutra.
Mais on a en tout cas une base qui est vraie, au moins la seule base qui est vraie, c'est qu'il y aurait eu quand même un auteur du Kama Sutra.
Ouais, j'imagine, ouais.
Et le scénario, on le doit à un monsieur qui s'appelle Sudip Menon.
Il a pris un pseudo.
Menon, c'est un scénariste indien. Originaire de Mumbai. Ah. Il a travaillé pour plusieurs structures éditoriales en Inde et il a scénarisé notamment une dizaine de titres, dont Dracula, Incognito, Sormas, Tachak, etc. Et il s'est associé à Laura Zuckeri, la dessinatrice, pour sa première bande dessinée sur le marché européen.
Là. Alors, deuxième question, parlons un peu chair. Comment sont les chairs ?
Laura Zuckeri, c'est elle, l'artiste, elle est née en 71. Elle s'est déjà fait connaître dans le magazine Ken, dans plusieurs histoires publiées dans le magazine Ken par Kerr, réalisé par Giancarlo Berardi. En 95, elle a publié Les Condamnés. Également, elle a publié dans la collection Zone X son album Hardware. Donc, on peut dire que la chose ne lui fait pas peur. Zone X, Hardware, j'ai pas vu, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, ça doit être un peu chaud patate. Alors, on a de la miche, parce que, ben, effectivement, il va falloir que le jeune homme honore la reine, qu'il la fasse couiner, et surtout que, ben, ma foi, il évite d'y passer, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et alors, je vais pas vous spoiler le reste, hein, mais on va découvrir quand même que le jeune homme éprouve quand même un certain ressentiment vis-à-vis de la Reine Rouge qui a tout simplement, quelques temps auparavant, massacré toute sa famille. Vous voyez, elle rigole pas, la Reine Rouge, quand même.
C'est un one shot?
C'est un one shot. Et le dessin est très somptueux. C'est paru aux éditions d'Adiel Baguel.
Plutôt dans le genre réaliste.
Ouais, hyper dans le genre réaliste. Énormément de couleurs. L'ambiance, comment dirais-je, tropicale est rendue à merveille parce que, avec des contraste de ton ocre, de couleurs parfois vertes pêchues, et puis la jungle, et puis je vous dis encore une fois, cette espèce de tribu du crâne, là, qui sont particulièrement vilains, vous voyez, ils sont mis une espèce de peinture blanche sur la gueule, et des traits noirs
autour des yeux,
et ils font véritablement flipper, quoi.
C'est des sorcières.
Ah, purée, non, mais ce sont des hommes, hein, mais ils ont vraiment des têtes de cinglés, t'as vraiment pas envie de les rencontrer en sortant du bistrot. C'est assez somptueux. Alors, encore une fois, si la vendeuse de la librairie dont nous tairons le nom vous regarde d'un œil tordu et vous dit « Ah ah !» c'est pourquoi on est... Alors, vous pouvez... Là, cette fois-ci, c'est le genre d'album pour qui vous pouvez commencer à dire que c'est pour un cadeau. Ah, c'est le truc que
c'est
je fais,
l'histoire,
moi.
C'est de l'histoire.
Voilà, bah, quand
c'est un biopic, tout simplement.
Quand j'achète un bouquin de cul, naturellement, sauf dans la librairie où nous tairons le nom, donc qui me connaissent depuis longtemps, là, je peux plus rien leur cacher. Effectivement, dans les autres librairies, je dis, est-ce que vous pouvez me l'emballer, naturellement. Mais, encore une fois, comme le dit avec justesse mon ami Plume, Kamasutra, le dessin somptueux, on a des scènes de miche, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans la gynécologie. Encore une fois, c'est un ouvrage, ma foi, qui...
Il y a un scénar qui est plutôt intéressant. Au début, je croyais quand vous avez commencé à raconter, mon Bourget, tu sais, il part dans la forêt, et puis j'imagine une histoire, il tombe sur deux paysannes.
Ah non, c'est flippant.
Tu sais, au bord du lac, et justement, ma copine Gertrude était là aussi, enfin, tu vois.
Non, c'est flippant, et puis je vous dis, toute cette espèce de crudité des rapports, alors la vie ne vaut rien, votre tête finit...
C'est l'Asie, ça, mon ami, c'est l'Asie.
Votre tête finit sur une pique pour un détail.
Il y a un nom,
surtout un oui ou un non, il s'en fiche. Donc,
pas en forme ce soir-là, quoi, merde.
Ouais, je n'ai pas véritablement éprouvé, je dirais, l'envie d'aller voir la reine rouge dans sa couche, même si pourtant elle est particulièrement gironde. Kamasutra de Chair et de Sang, de Sidip Menon et de Laura Zuccheri, aux éditions Daniel Maguen. Voilà, bah, c'est l'été.
Day is here and I am still alive. I'll say these words aloud, they speak from the inside. And every time I see you, you just walk away. Still the world is turning. I wanna hear what you've got to say. I wanna hear what you've got to say. Wanna hear what you've got to say. I wanna hear what you've got to say. Hey, hey, hey.
The Subways, I want to hear what you got to say. J'espère que vous êtes dans cet état d'esprit, chers auditeurs. Allez, une petite dystopie pour pourrir l'ambiance à la fin, oui. Mais tu sais, pas le genre dystopie sympa.
Alors c'est quoi?
Parce que dans dystopie, c'est jamais sympa. Non. Alors ça s'appelle Kaya, ça nous vient d'Italie, via Glenna. Kaya. K-A-Y-A. C'est le nom de l'héroïne, en fait, que l'on va suivre dans cette aventure. C'est une jeune fille qui vit donc dans un monde dystopique, donc c'est pas rigolo, forcément. On est dans un truc post-apocalyptique. En gros, l'idée, l'introduction est super bien faite. Je la trouve super bien faite. C'est très cinématographique. C'est une espèce de voix off qui, avec toute une série d'images qui nous mettent en place le monde où on va. Grosso modo, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des martiens qui sont arrivés. Ils nous ont pété la gueule. Ils sont en train de récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer en tant que minerais, etc. sur notre planète, tu vois. Mais bon, ils nous ont pété la gueule, donc faut. Hein. Les humains servent plus ou moins de main d'œuvre. Alors il y a une vague promesse comme quoi, une fois que tout serait niqué ici, que ça serait vraiment bien pourri, qu'il n'y aurait plus rien à en tirer, ils nous emmèneraient avec eux.
Super.
Sur une autre planète. Donc on y croit très très fort. Mais il y a des humains, si tu veux, on est quand même pas trop trop loin après l'invasion, qui sont encore des fugitifs, quoi. Et ce qu'on va suivre, c'est Kaya, qui est justement une de ces fugitives. Au début, tu la vois avec son frère, qu'elle va très vite perdre. Donc elle va se retrouver livrée à elle-même. C'est une jeune fille de quoi, 14 ans. Et elle va devoir tracer sa route dans ce monde-là. On verra absolument pas les martiens. En fait, tu les verras une fois, un portrait, quand il y a cette espèce de narratif au début qui te met en place l'ambiance. Ce que tu vas vivre, c'est elle, parmi tous ces autres fugitifs, où là, t'es dans du survivalisme. C'est quand même un peu chacun pour sa gueule, tu vois.
C'est comme. Est-ce qu'ils essayent de résister, de cartonner la vie?
Plus vraiment. Non, là, t'es dans la phase de panique. En fait, tu vois, c'est comme dans Terminator, mais avant John Connor qui mène la rébellion. C'est vraiment le chacun pour soi, le libre. Enfin, je veux dire, c'est le survive. Là, t'es dans un surréaliste. Avec, en plus, des espèces de brigades de collabos, des bio-brigades qui traquent les fugitifs. Et il y a toujours des gens qui sont prêts à collaborer avec l'autorité. Marrant. C'est fou, ça. Hein.
C'est le gène de Ciotti.
Ouais, j'en sais. Oui, c'est ça. Le fameux gène de Ciotti. Et donc, tu vas suivre le chemin de cette jeune fille qui perd quasiment au début de l'album son frère. Alors, t'es dans un monde aussi où il y a plein d'animaux qui ont subi une mutation génétique. Elle va notamment rencontrer une espèce de louve mutante, qui est vraiment une espèce de gros bestiau, une espèce de presque une créature de forêt comme on pourrait avoir dans du Miyazaki là aussi, tu sais un peu c'est du, mais là ça serait dans Princesse Mononoke, tu sais il y a une espèce de loup comme ça, elle est d'une autre couleur mais une espèce de grosse créature dans le genre là, et ça finit mal forcément, c'est une histoire assez sombre. Mais vachement bien mené, avec, je te dis, ce qui fait toujours le sel de la dystopie, c'est-à-dire ces histoires apocalyptiques, survivalistes, comme le Fils de l'Homme, etc. Moi, c'est vrai que ça marche bien, c'est des bons produits, ça marche bien ce genre d'ambiance. Alors, ça nous vient d'Italie. Lorenzo Lanfrocchini, je crois, fait la couverture, Linda Covalini, la dessinatrice, et Paolo Barbato. Romancière qui a donc scénarisé cette histoire. C'est pas rigolo, mais c'est vachement bien mené par toute cette équipe italienne plutôt talentueuse dans un univers. Donc, il y a une certaine poésie, mais surtout, finalement, tu découvres que l'âme humaine est bien pourrie. Alors, il y a un truc rigolo, c'est qu'il y a des QR codes qui sont disséminés dans la bande dessinée qui te permettent, en fait, de créer une bande son. En fait, c'est très inspiré de l'animation. J'ai envie de te dire, c'est très inspiré de l'animation. Donc, si t'aimes les récits survivalistes, les animaux mutants, les émotions fortes et surtout les désillusions fortes, un joli univers graphique assez proche de l'animation. Voilà, cette jolie petite dystopie, ça s'appelle Kaya. La couverture est très réussie avec, je sais plus comment on dit quand t'as une espèce d'incrustation d'enluminure comme ça, toute dorée. C'est pas comme dans les couvertures. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais le très belle couverture où tu vois notre petite Kaya sur les ruines devant des ruines et qui est montée sur une épave de bagnole au milieu d'une végétation que tu sens en train de dépérir, et puis avec ces lettres là métallisées, je sais plus comment on dit, j'ai plus les termes techniques.
C'est une boîte de tête.
Oui, ça doit être ça. Avez-vous quelque chose d'autre à nous proposer, mon Bangé? On a encore un peu de temps. Super. Et il paraît que vous êtes dur.
Ouais,
dur.
Non, je suis pas dur. Au contraire, j'aimerais bien quelque part que je sais pas. Mou, M-O-U, de Monsieur Ben Féroumont, paru aux éditions Dupuis, un joli petit album de bande dessinée sur fond rose. On y voit une jolie rousse très gironde qui a entre les jambes une espèce de créature.
C'est ça, c'est bizarre ça. On dirait une grande tentacule.
On dirait une grande tentacule avec des bras, puis espèce, vous voyez, une espèce de petit truc là qui l'enserre, et elle semble être elle semble être tout simplement
en pamoison.
Parfaitement bien. En fait, moi déjà, je vais pour vous présenter un peu l'autre. Monsieur Ben Féroumont, je l'avais découvert du temps où mon fils était encore abonné à Spirou, et j'avais découvert une bande dessinée qui s'appelait Le Royaume. C'était très très mignon, l'histoire d'un... Ça se passait au Moyen-Âge, avec comme cet automatique là, dans Astérix, un maréchal forgeron amoureux d'une jolie petite blonde, et avec des petits oiseaux, langue de pute, qui n'arrêtent pas de raconter à tout le monde ce qu'ils voient. Mais c'était très mignon, c'était paru chez Dupuis, chez Spirou plus précisément. Puis j'ai retrouvé M. Féroumont, j'en avais parlé, avec un autre album qui s'appelle Gisèle. Un album qui, lui, n'est plus publiable dans Spirou, parce que beaucoup plus olé olé. Avec l'histoire d'une capture, quelque part, capture de cette Gisèle, dont on ne sait même plus à la fin si c'est un homme ou une femme, par une femme un peu bizarre. Bref, quelque chose qui nous parle de la sexualité. Et voilà qu'avec Mou, M. Ben Féroumont aborde un autre aspect de la sexualité à travers le personnage d'un petit bonhomme qui semble avoir, il s'appelle Charles, en fait. Charles, il a fait un peu d'études.
C'est un biopic ?
Non, il n'aura pas le moratoire, celui-là. Il ne passera pas le moratoire. Et Charles... Eh bien, c'est un livreur Uber, alors qu'il a fait des études, etc. Mais c'est un livreur Uber. C'est un monsieur qui est tout effacé, tout très, très gentil, mais victime. Vous voyez, là, il livre, on voit au début de l'histoire, il livre, il se fait renverser par un mec. Le mec lui pète son vélo, il veut pas porter plainte. Sa mère le tyrannise, etc. Mais sa vie va changer lorsque, lassé de toutes ses misères, il descend dans un bar qui s'appelle le Carmine parce qu'il cherche du personnel de salle. Et il se rend donc dans ce bar, il aborde la patronne, une jolie blaquette avec de magnifiques tresses, et elle lui dit: mais mon petit chat, je suis désolé, c'est pas pour toi, tu vois, regarde, nous il y a que des filles ici, et on est une équipe de filles, mais allez, c'est de ma faute, j'avais mal fait mon annonce, allez, je te paye un coup, c'est pour la maison. Et elle lui paye une bière et il va s'asseoir. Et voilà qu'arrive une jeune femme, toute mimi, avec, cheveux mi-courts, une mi-frange, je sais pas vraiment la frange dont vous raffolez, mais vous voyez.
Une belle mèche,
et elle avise le petit livreur.
C'est la fille en couverture ?
Ouais.
La roupine en couverture ?
C'est pas la fille en couverture. Et puis voilà, elle voit l'espèce de... C'est assez rigolo, parce qu'elle dit à la serveuse: c'est qui ce gars? Et la patronne lui dit: un petit chaton comme tu les aimes, perdu et tout mouillé. Et hop, pouf, elle l'aborde. Et elle le chauffe, elle le branche, et elle l'emmène dans sa chambre. Et elle le ramène chez lui, etc. Ils vont faire l'amour, mais... Ah, ça va pas être vraiment terrible, terrible, le pauvre Charles. Il a pas vraiment bossé le Kama Sutra avec le vieux barbu dont je parlais tout à l'heure. Donc, en 30 secondes, chrono, l'affaire est réglée. Mmh. Et notre pauvre héroïne en reste un peu sur sa faim. Et dans la nuit, notre héros va boire un coup dans le frigo de la jeune fille, et puis, il rentre, il abandonne sa chérie d'un soir, il rentre chez lui. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il est transformé en cette espèce de bestiole, informe, toute molle, qui peut passer partout, s'incruster partout. Et lorsque sa mère le découvre, elle le jette, quoi. Elle se doute que c'est son fils, elle dit: oui, t'as jamais rien fait de ta vie, ça m'étonne pas, t'es tout mou. Et elle le fout dans les chiottes. Et à partir de là, eh bien, le destin de notre Charles va basculer, parce que il a le pouvoir, à partir d'être dans les égouts, de remonter par les égouts et de débarquer dans les chiottes de plein de gens. Et curieusement, eh bien, il va se faire, comment dirais-je, capturer par une nana qui va le découvrir dans sa salle de bain. Et alors qu'elle est en plein clash avec son chéri, eh bien, voilà Tipa qu'elle tombe en pamoison avec cette créature. Et cette créature, munie de mille et un tentacules, eh bien...
est capable de faire des trucs.
Voilà, il est capable de faire des trucs, mon bon vieux Plume, que vous et moi n'imaginons pas.
C'est très étrange comme idée d'histoire, quand même, c'est assez incroyable. Et je trouve que le dessin est complètement différent de la couverture. Complètement différent.
Je sais pas trop, non, je dirais pas.
C'est plus gris, plus cartoonesque.
Peut-être un peu, mais c'est peut-être...
Il y a beaucoup de fonds gris vus d'ici.
Alors, il y a même une référence à la vague. Il y avait une référence à la vague lorsque la chose fait l'amour avec, encore une fois, une jolie rousse. Notre auteur doit aimer les filles aux cheveux rouges parce qu'elles l'ont presque toutes. Et en fait, ça va devenir une rumeur. En fait, à travers toute la ville, le bruit va se répandre qu'une créature capable de combler les filles comme nul autre pareil peut arriver chez vous.
Marrant.
Et alors pourquoi s'est-il transformé ? Alors je vais pas spoiler parce que ça c'est encore au début de l'histoire. C'est parce que la petite nana qui l'avait emmené chez elle,
elle est chimiste
pour le compte de l'ESA, l'agence spatiale européenne.
D'accord. Putain d'alien.
Mais derrière. Alors, encore une fois, on n'est pas dans la pornographie pure et dure. À la limite, c'est très mignon, ces jeunes femmes.
C'est coquin.
Ouais, c'est plus coquin qu'autre chose. Et puis surtout, je dirais, on voit ça lorsque Mou va rencontrer une pauvre nana qui est en phase terminale du cancer, notamment. Donc vous voyez, on passe parfois par des périodes qui sont peu zarbes, quoi. Mais il va lui apporter du réconfort. Et à travers ça, je dirais en creux, Monsieur Ferroumont montre quand même qu'il semblerait, et là-dessus je veux bien lui donner raison, que nous ne soyons pas à même de véritablement combler nos chéris, étant principalement obsédé par le désir masculin de rechercher le plaisir et l'extase le plus vite possible, et tant pis pour la partenaire. C'est un petit peu ça que Mou révèle à travers la passion dont il est, à travers l'objet de folie dont il est devenu auprès des femmes de la ville.
Excellent.
Mou de Monsieur Ben Ferroumont aux éditions Dupuis, un petit ouvrage rose. Encore une fois, vous pouvez dire, mais regardez, c'est pas explicite. Vous pouvez le dire à la libraire. Vous pouvez l'acheter sans rougir. Vous dites que vous venez de ma part. Dès que vous venez de ma part, Mou de Ben Ferroumont aux éditions Dupuis, c'est magnifique, avec plein de petites nanas girondes. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, comment nous sommes en tant qu'être masculin, un peu responsable de cette situation quelque part, mais elle aussi, c'est-à-dire que quand elle découvre la bestiole, certaines ne veulent plus le laisser filer, vous comprenez. C'est quand même l'occasion du siècle, quoi, voyez. Et c'est pour le coup du siècle, le Mou. Voilà comment un obscur livreur, la prochaine, vous n'allez plus regarder de la même façon votre livreur de pizza de chez...
Interlude musical, l'ami.
Yes.
Un dernier petit morceau et puis il sera déjà le temps de dire au revoir. Vous, le temps passe vite avec vous, c'est dingue.
C'est incroyable.
Thank you.
Rina Barbara pour finir cette émission avec Mirage Dreams. Voilà qui vient clore la 484e. Ça commence à sentir les vacances. On va voir si on arrive à en enregistrer encore quelques-unes. En tout cas, à très bientôt.
Yes.
On va dire ça déjà d'avance. Et puis, bonne lecture.
Tant qu'on a encore le droit, il nous reste encore 15 jours.